France Inter, le 7-9, intervenez.
Fethi Benslama est notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur de psychopathologie clinique à l'université Paris 7 et psychanalyste. Vous êtes co-auteur avec Farhad Khosrokavar d'un livre sur le djihadisme des femmes qui sortira le 14 septembre aux éditions du Seuil. Pourquoi avoir tous les deux braqué votre regard sur la question des femmes en particulier?
Parce que c'est la moins étudiée. On n'a pas prêté suffisamment attention, il y a des articles par-ci par-là, il n'y a pas suffisamment attention pour prendre l'ensemble de la problématique de ces femmes. Et avec Khosrokavar, lui sociologue, moi psychanalyste, nous avons décidé de travailler ensemble, parce que, encore une fois, la question du terrorisme est un problème multidimensionnel. Il y a une dimension politique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension psychologique, idéologique, enfin. Et donc, ça ne peut pas être traité d'un seul point de vue. Et donc, nous avons décidé de mettre en commun nos connaissances, nos savoirs, et nous avons travaillé sur un certain nombre de cas de femmes qui ont choisi le djihadisme pour femmes, si je peux dire. C'est pas tout à fait la même chose que les hommes. Les hommes, souvent, vont pour combattre. Il y a des femmes qui veulent aussi combattre, elles sont empêchées d'ailleurs, contrôlées par les hommes, mais la plupart du temps, le djihadisme des femmes a d'autres motifs et d'autres buts que celui du combat. Mmh. Et donc nous avons essayé de comprendre la trajectoire de ces femmes, par où elles sont passées, et quelles sont les raisons qui les ont poussées à adhérer à cette idéologie, à cette voie, celle du djihadisme.
Et là encore, il y a une multitude de raisons, de profils, de portraits, vous les faites, vous les établissez, oui, dans ce livre qui sera donc en librairie dans 3 semaines. La parole aux auditeurs d'Inter. Yves, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous,
oui,
nous appelez de Poitiers, soyez le bienvenu, voilà. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, merci d'avoir pris ma question. Je me pose une question que se posent d'ailleurs beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens, à savoir, est-ce qu'il est vraiment important de se référer à la psychanalyse? Est-ce qu'il est vraiment important de psychanalyser les terroristes ou tous ces gens-là, quoi, si vous voulez?
Plutôt alors que de les combattre, c'est ça?
Plutôt que de les combattre directement, comme le font, par exemple, les services de renseignement marocains, vous savez. Au Maroc, il n'y a pas tellement d'attention, il y en a même très peu, parce qu'on est efficace là-bas. C'est la même chose pour le Mossad, c'est la même chose d'une certaine façon pour les États-Unis. Alors plutôt que de, comment dirais-je, gloser sur la psychanalyse, on n'a pas tellement glosé sur la psychologie des gens de la division Charlemagne, hein, pendant la dernière guerre mondiale, là. On n'a pas tellement glosé sur les gens de la carlingue, hein, on ne s'est pas occupé de ça, on les a combattus. Alors il me paraîtrait plus important de faire comme ça.
Voilà. Merci,
la question
Yves.
Que je voulais poser à Monsieur Benslama.
Merci beaucoup pour votre intervention et pour cette question que je livre à Fethi Benslama.
Il s'agit pas de faire de la psychanalyse ou de
gloser.
Il s'agit de savoir. Et ce savoir a pour visée de comprendre comment ces gens, d'où viennent-ils et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et c'est essentiel pour les combattre. Si vous n'avez pas de savoir sur vos ennemis, eh ben, vous pouvez pas les combattre. C'est pas la même chose que la division Charlemagne. Là, nous sommes dans un état de guerre et d'une armée. Des gens qui ont été mobilisés, ils savent qu'ils vont combattre et il faut leur opposer une armée. Là, c'est autre chose. C'est de l'ennemi invisible. Ils sont dans la masse. On sait pas comment ils surgissent, etc. Et donc, si nous n'avons pas plusieurs sortes de savoir, pas que la psychanalyse, pas que la psychiatrie, il y a plusieurs types de savoirs qui doivent concourir pour pouvoir identifier cet ennemi. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose que avec une armée ou une état de guerre. Ça, c'est une armée de l'ombre et de l'invisible. Mmh. Et justement, c'est ça, sa force. Et elle nous terrorise. Elle veut modifier notre mode de vie, notre société. Ils sont maintenant partout dans le monde entier et ils se fondent dans la masse, voilà.
Jean-Claude, bonjour, bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à Nicolas Demorand sur la matinale.
C'est gentil.
Voilà. Oui, ma question c'était, est-ce que le fait de vivre dans une société violente et à différents niveaux, hein, mais qui masse cette violence sous diverses hypocrisies, hein, égalité des chances, démocratie, on a parlé de démocrature devant la mise à l'écart d'un certain nombre de populations, de gens du système électoral, Est-ce que ça ne lève pas certaines inhibitions, notamment chez des personnes qu'on dit faibles, mais qui en fait peuvent être simplement sensibles à ce mensonge permanent, hein. Je pense à des jeunes qui sont par exemple d'origine tout à fait... qui ne sont pas d'origine musulmane, qui ont... Voilà, il y a des bretons chrétiens jeunes qui se sont retrouvés djihadistes.
Il y a des convertis, effectivement, voilà. Jean-Claude. Fethi Ben Slama vous répond.
Écoutez, nous sommes... si on prend cette logique-là, eh bien, on devrait avoir beaucoup plus qu'on a comme de terroristes et des gens qui passent à l'acte, parce que les populations qui sont confinées dans les banlieues, qui sont pauvres, etc., on devrait en avoir des dizaines, des centaines de milliers. Or, pas du tout. c'est pas ça. Et donc, ce raisonnement-là, les sociologues l'ont abandonné. Ils ne font pas de corrélation nécessairement entre le fait de vivre dans des conditions difficiles et d'être violent. Quant à l'idée que notre société en France est une société violente, franchement, il faut regarder, il faut se porter le regard un peu ailleurs. Des pays comme le Venezuela qui étaient des sociétés démocratiques, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Et d'autres, pour ne pas parler d'autres pays où la violence est endémique. Nous sommes plutôt dans une société qui ne connaît pas la guerre depuis très longtemps et qui est une société qui connaît des formes de violence qui sont des formes de violence sporadiques, limitées, etc. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les actes de terroristes guerriers comme nous les connaissons nous effraient beaucoup. Il y a quelques décennies, le fait d'avoir une dizaine de personnes de tuées, quand en une journée on voyait des milliers se faire massacrer, je pense à la Première Guerre mondiale, par exemple, était quelque chose au fond qui ne scandalisait pas tant que ça. Donc voilà, il faut vraiment garder un peu raison et pas exagérer non plus ces facteurs qui sont des facteurs d'ordre sociologique et d'ordre sociaux. Quand on raisonne d'une manière statistique, on voit aujourd'hui que la majorité de ceux qui commettent des actes terroristes, ont entre 17 et 26 ans et ils appartiennent majoritairement à la classe moyenne. Ça, c'est les données concrètes. Donc, on ne peut pas arguer de ces conditions sociales pour expliquer des conduites violentes, ou alors, on aurait vraiment plusieurs millions, quoi.
Chantal, bonjour, vous nous appelez de Paris. Le dialogue se poursuit avec Fethi Ben Slama, il vous écoute.
Oui, bonjour, monsieur Demorand, et effectivement, bienvenue.
Merci.
Moi, je vous ai écouté, j'étais encore très très jeune, il y a un bout de temps maintenant. Je suis contente de vous retrouver.
Merci beaucoup.
Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un lien à faire, et je le pense en tant que thérapeute, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la façon dont est enseignée la religion musulmane d'une certaine manière, quand elle est destinée à radicaliser? Est-ce qu'il y a donc un lien à faire entre cette manière de l'enseigner, de la montrer, de la dire, et la pulsion sexuelle qui est dans cette manière de l'enseigner, qui contient des inhibitions, qui contient beaucoup trop d'interdits pour cette tranche d'âge, comme vous le disiez tout à l'heure, entre 17 et 35 ans, admettons, et qui est en pleine évolution de sa sexualité, de sa pulsion, de sa violence naturelle et toutes les autres formes de violence aussi.
Merci, voilà. Merci Chantal pour votre question, votre intervention. Votre confrère Fethi Ben Slama vous répond.
C'est une question intéressante. La pulsion sexuelle est évidemment à l'œuvre dans les phénomènes de violence d'une manière générale. Mais alors comment expliquer qu'on a 25% qui ne sont pas musulmans, qui se convertissent et qui ne sont pas convertis du tout, des actes violents d'autres en commettent que les musulmans? Donc il faudrait... Moi je lui repose la question, je lui retourne la question. Je crois que la question de la violence, encore une fois, le passage à l'acte violent est une, je dirais, décision subjective individuelle et qui ne peut pas être généralisée. Parce que, les problèmes de la sexualité chez les musulmans, etc., là aussi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de gens qui vivent dans ces conditions de répression, de refoulement, etc. Mais alors, pourquoi il n'y en a que quelques-uns seulement qui vont devenir violents? Donc, encore une fois, je reviens à cette question qu'on, vraiment, on a du mal à la faire passer. C'est une décision subjective de devenir violent et non pas quelque chose qui vraiment peut être généralisé.
Il n'y a pas d'explication quand on vous entend. On vous propose, les auditeurs de France Inter, une analyse sociologique, une analyse psychanalytique, une analyse politique, et à chaque fois vous montrez que,
absolument,
certes, ça entre peut-être d'une manière ou d'une autre dans les facteurs explicatifs au sens large, mais l'objet échappe sans cesse à son appréhension.
Exactement. C'est au cas par cas. Vraiment au cas par cas. Parce que si on avait vraiment une explication systématique, eh bien, ça serait très simple de prévenir.
Le problème serait réglé.
Oui, mais regardez les services de renseignement, comment ils font, ils travaillent au cas par cas. Eh bien, le clinicien que je suis ne peut pas généraliser quelque chose d'une personne, le faire vraiment généraliser pour tous les autres. C'est l'étude au cas par cas, et c'est la difficulté de la tâche. C'est la difficulté de la tâche pour les gens qui travaillent à détecter, à essayer de prévenir. C'est très difficile parce que il faut vraiment à un moment donné être convaincu que la personne va passer à l'acte, celle-là, mais pas les 20, 30 ou 40 autres qui sont suivis au même moment. Et pour ça, eh bien, les généralités, bon, on peut les avoir à l'esprit, mais pareil, je prends un exemple. Il est probable que quand quelqu'un va passer à l'acte violent, eh bien, il y a une période où il devient extrêmement indifférent, presque serein, avant de passer à l'acte. Bon, ça peut être un indice, mais c'est un indice chez quelqu'un qui a été jusqu'à là extrêmement agité, qui se démène, qui s'engage, qui tient des propos, etc. Mais le moment où il devient très très calme, ça peut être le moment le plus dangereux. Vous voyez, donc c'est vraiment, ce sont des éléments qui ne peuvent pas faire l'objet d'une généralisation. Il faut contextualiser, relativiser à la personne.
La parole à Françoise de Biarritz. Bienvenue sur Inter, Françoise.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
En fait, merci. En fait, ma question découle un peu de votre thème, même si c'est pas tout à fait le thème, mais je voulais savoir ce que votre invité pensait des, alors je sais pas si on appelle ça des centres, des cellules, mais de déradicalisation pour les personnes, voilà.
Merci Françoise. Fethi Ben Slama vous répond.
La déradicalisation n'existe pas, madame. Il y a, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, des possibilités d'insertion, de réinsertion dans la société. Comme on réinsère d'autres personnes, des délinquants, et que sais-je, d'autres personnes qui sont sorties, disons, pour une raison ou une autre. Et ce n'est pas, tout le monde n'est pas accessible à cette réinsertion. Il y a des gens qui sont extrêmement durs, et lorsque on fait un travail très sérieux, on voit qu'ils recommenceront, qu'ils ne reviendront pas sur leur engagement. Là, il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas les réinsérer. Vous ne pouvez que les écarter de la société. Mais pour certaines personnes, pour lesquelles l'engagement, par exemple, dans la radicalisation ou vers une forme de violence a été et dû à un accident de parcours dans la vie, à un moment très difficile, eh bien, il est possible de faire quelque chose pour eux. Mais alors, après, se pose la question des conditions pour permettre cela. Et pour le moment, on a peu d'expérience en France. Ça existe dans d'autres pays. Le gouvernement a décidé de fermer un centre, le centre de Pontourny, qui a été un échec, mais un échec à cause de choix politiques qui ont été faits, avec cette idée de volontaire. Ça n'existe pas. Personne ne se dit radicalisé. Personne ne va dire « moi, je suis radicalisé et je suis volontaire pour qu'on me déradicalise ». Ça n'existe pas. Bon. Il faut que la chose soit entre les mains de la justice, comme pour d'autres choses. Par exemple, les délinquants sexuels, on les oblige à des suivis, et pour d'autres délinquants aussi. C'est la même chose pour la radicalisation.
Une question de Claire Fethi Ben Slama. Quelles conséquences ont les attaques terroristes sur l'état psychologique de la population française ?
Écoutez, alors là aussi, généraliser, c'est vrai, on voit bien. D'abord, les Français résistent, nous ne sommes pas dans des moments de rupture et de déchaînement, de passion hostile à telle ou telle catégorie de la population. On n'a pas vu ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer et dire et renvoyer. Nous sommes dans un pays où majoritairement la population garde son sang-froid, et je pense que l'une des raisons, c'est parce qu'elle ne fait pas de généralité. Ce sont souvent certains experts, certains hommes politiques, disons, qui font de la démagogie, qui font des généralisations, où ils croient rassurer en tirant des conclusions hâtives, mais dans la majorité... Moi, j'entends aussi les gens, je les entends, des gens du commun, hein. Ils sont très, très nuancés. Ils ne font pas de généralisation. On a dit, on a craint à un moment qu'il y ait une généralisation sur l'islam. Mais on voit bien que les gens, quand on discute avec eux, ils sont beaucoup plus nuancés. Et c'est la raison pour laquelle on garde aujourd'hui un sang-froid en France. Et je crois que c'est quelque chose qui... Nous sommes un peuple solide. Voilà. Il sait faire face aux épreuves.
On en reste là. Merci Fethi Ben Slama, professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris 7, psychanalyste, co-auteur de ce livre à paraître, co-signé avec donc Farhad Khosrokavar et intitulé « Le djihadisme des femmes ». Ce sera aux éditions du Seuil.